Chapitre 29. Le règne du sang. Forme d'art pour saisir des couleurs nouvelles, nous rêvons de ces champs d'exception. De la création attirons les sprennes. Jusqu'à l'apprentissage, ces champs nous suffiront. Extrait du chant des révisions de ceux qui écoutent. 279e couplet. Thorol Sadéas ferma les yeux et reposa justicière sur son épaule, inspirant l'odeur douceâtre de moisi que dégageait le sang par Shendi. Le frisson du combat montait en lui, une puissance sublime et bienvenue. Son propre sang cognait si fort à ses oreilles qu'il n'entendait presque plus les cris du champ de bataille ni les gémissements de douleur. L'espace d'un instant, il savoura l'éclat délicieux du frisson, l'euphorie grisante d'avoir passé une heure concentrée sur la seule chose qui lui apportait désormais de la joie. Lutter pour sa vie et prendre celle d'ennemis qui lui était inférieur. Puis, le frisson se dissipa. Comme toujours, il le désertait une fois que le combat lui-même prenait fin. Le frisson lui était devenu de moins en moins doux lors de ses attaques contre les Parchendi, sans doute parce qu'il savait au plus profond de lui-même que tout ce défi ne rimait à rien. Il ne l'élevait pas, ne le rapprochait pas de ses objectifs de conquête. Massacrer des sauvages couverts de crémons dans un territoire paumé avait réellement perdu de sa saveur. Il soupira, baissa sa lame et ouvrit les yeux. Amaram approcha en traversant le champ de bataille, enjambant des cadavres d'hommes et de Parchendi. Sa cuirasse d'éclat était couverte jusqu'au coude d'un sang violet, et il tenait un cœur de gemme étincelant dans sa main gantée. D'un coup de pied, il écarta le corps d'un Parchendi et rejoignit Sadéas, tandis que sa propre garde d'honneur se déployait pour rejoindre celle du haut prince. Sadéas éprouva un pincement d'agacement en voyant avec quelle efficacité il se déplaçait, surtout comparé à ses propres hommes. Amaram retira son casque et soupesa le cœur de gemme, puis le jeta en l'air et le rattrapa. « La manœuvre que vous venez de tenter a échoué, vous en êtes bien conscient. »« Échoué, » répéta Sadéas en levant sa visière. Non loin d'eux, ces soldats massacraient une niche de 50 Parchendi qui n'avaient pas réussi à quitter le plateau quand les autres s'étaient retirés. « Je trouve que ça s'est très bien passé. » Amaram tendit le doigt. Une tache était apparue sur les plateaux à l'ouest, dans la direction des camps de guerre. Les bannières indiquaient que Atam et Royon, les deux princes censés avoir participé à cette course au pont, étaient arrivés ensemble. Ils utilisaient des ponts pareils à ceux de Dalinar, de lourds engins très lents qu'il avait été facile de dépasser. L'un des avantages des équipes de pont telles que les aimait Sadéas était qu'elles avaient besoin de très peu d'entraînement pour fonctionner. Si Dalinar avait cru le ralentir avec sa ruse consistant à lui racheter ses hommes de pont en échange de justicière, cet idiot venait d'être détrompé. « Il fallait que nous arrivions ici, » reprit Amaram. Que nous nous emparions du cœur de gemme, puis que nous revenions avant le retour des autres. Alors vous auriez pu prétendre ne pas vous être rendu compte que ce n'était pas votre tour aujourd'hui. L'arrivée des deux autres armées vous a retiré toute possibilité de le démentir. Vous vous trompez sur mes intentions, répliqua Sadéas. Vous partez du principe que je me soucie toujours de pouvoir démentir les choses. Le dernier Parchendi était mort avec des hurlements de rage. Sadéas en était fier. D'autres affirmaient que les guerriers Parchendi ne se rendaient jamais, mais ils les avaient vus essayer à une occasion, longtemps auparavant, lors de la première année de la guerre. Ils avaient déposé leurs armes. Ils les avaient tous massacrés personnellement, avec cuirasse et marteau d'éclat, sous les yeux de leurs compagnons en train de se retirer, qui les observaient depuis un plateau tout proche. Plus jamais un seul Parchendi ne leur avait refusé, à ses hommes et à lui, le droit de finir une bataille comme il se devait. Sadéas fit signe à l'avant-garde de se rassembler et de l'escorter jusqu'au camp de guerre, tandis que le reste de l'armée pansait ses plaies. Amaram le rejoignit, traversant un pont et longeant des hommes de pont qui dormaient étendus sur le sol, tandis que des hommes meilleurs mouraient. « Le devoir m'oblige à vous rejoindre sur le champ de bataille, votre Altesse, » dit Amaram tandis qu'il marchait. « Mais je veux que vous sachiez que je n'approuve pas les actions que nous menons ici. Nous devrions chercher à combler le fossé qui nous sépare du roi et de Dalinar, au lieu d'essayer de le creuser encore davantage. » Sa déesse ricana. « Ne me servez pas à ce discours bien noble. Il fonctionne très bien sur d'autres, mais je sais quel salopard impitoyable vous êtes en réalité. » Amaram serra la mâchoire, le regard braqué devant lui. Quand ils atteignirent leurs chevaux, il posa la main sur le bras de Sadéas. « Torol, » dit-il d'une voix douce, « il y a des choses tellement plus importantes au monde que vos chamailleries. Vous avez raison à mon sujet, bien entendu. Entendez dans cet aveu la certitude qu'avec vous, plus que tout autre, je peux dire la vérité. Aletkar doit être fort pour ceux qui se préparent. » Sadéas grimpa sur le marchepied que le valet avait installé. Monter sur un cheval en portant une cuirasse pouvait se révéler dangereux pour l'animal si on ne s'y prenait pas correctement. Par ailleurs, il lui était un jour arrivé qu'un étrier cède alors qu'il y prenait appui pour se hisser en selle. Il avait atterri sur les fesses. « C'est vrai, Aletkar doit être fort, » acquiesça Sadéas en tendant sa main gantée. « Alors je l'y obligerai par la force du poing et le règne du sang. » À contre-cœur, Amaram y plaça le cœur de Gem et Sadéas le serra dans sa main, tenant ses rênes de l'autre. « Vous arrive-t-il de vous inquiéter ?» demanda Amaram, « au sujet de ce que vous faites, de ce que vous devez faire. » Il désigna un groupe de chirurgiens qui transportaient des blessés à travers les ponts. « M'inquiéter !» se récria Sadéas. « Pourquoi le devrais-je ? Ça donne à ces misérables une chance de mourir au combat pour quelque chose qui en vaille la peine. « Vous dites beaucoup ce genre de choses ces jours-ci, ai-je remarqué ?» commenta Amaram. « Vous n'étiez pas comme ça avant. « J'ai appris à accepter le monde tel qu'il est, Amaram. » répliqua Sadéas en faisant tourner son cheval. C'est quelque chose que très peu de gens sont disposés à faire. Ils avancent à tâtons, ils espèrent, ils rêvent, ils font semblant, mais ça ne change strictement rien à leur foudre d'existence. Il faut regarder le monde droit dans les yeux, dans toute sa brutalité sale. Il faut accepter ses perversions, vivre avec elles. C'est le seul moyen d'accomplir quoi que ce soit de significatif. D'une pression des mollets, Sadéas mit son cheval en marche, laissant pour l'instant Amaram derrière lui. Il resterait loyal. Sadéas et Amaram avaient un accord. Même le fait qu'Amaram soit désormais un porte-éclat n'y changerait rien. Tandis que Sadéas et son avant-garde approchaient de l'armée de Hatam, il remarqua un groupe de Parchendi sur un plateau voisin, en train de les observer. Leurs éclaireurs devenaient téméraires. Il envoya une équipe d'archers les disperser, puis se dirigea vers une silhouette vêtue d'une cuirasse resplendissante à l'avant de l'armée de Hatam. Le haut prince en personne, montant un richadium. Damnation. Ces animaux étaient nettement supérieurs à tous les autres chevaux. Comment en obtenir un ? Sadéas, lui lança Hatam. Mais qu'avez-vous donc fait ? Après une brève hésitation, Sadéas leva le bras et projeta le cœur de gemme à travers le plateau qui les séparait. La gemme atteignit la pierre près de Hatam, ricocha et se mit à rouler en brillant faiblement. « Je m'ennuyais !» cria Sadéas en réponse. « Je pensais vous épargner des soucis !» Puis, coupant court à toute autre question, Sadéas poursuivit son chemin. Il avait décidé de ne pas manquer le duel qu'Adeline Colline livrerait aujourd'hui, au cas où le jeune homme se ridiculiserait à nouveau. Quelques heures plus tard, Sadéas prenait place dans l'arène de duel, tirant sur la cravate foulard qu'il portait autour du cou. Insupportable, ces engins-là, très à la mode, mais insupportable. Il n'avouerait jamais à personne, pas même à Yalai, qu'il regrettait secrètement de ne pas pouvoir porter un uniforme aussi simple que celui de Dalinar. Mais bien entendu, il ne pourrait jamais faire ça. pas simplement parce qu'il refusait d'être vu en train de se plier au code et à l'autorité du roi, mais parce qu'un uniforme militaire était en réalité le pire type d'uniforme pour cette époque-ci. Les combats qu'il livrait pour Aletkar en ce moment même n'étaient pas des combats à l'épée et au bouclier. Quand on avait un rôle à jouer, il était nécessaire de porter les vêtements adéquats. Les tenues militaires de Dalinar prouvaient qu'il était perdu, qu'il ne comprenait pas à quel jeu il se livrait. Sa déesse se détendit sur son siège pour patienter, tandis que des murmures remplissaient l'arène comme de l'eau s'accumulant dans un bol. L'assistance était nombreuse aujourd'hui. Les exploits d'Adeline lors de son précédent duel avaient attiré l'attention, et tout ce qui était nouveau intéressait la cour. Le siège de sa déesse était entouré d'un espace vide pour lui fournir davantage d'intimité, bien qu'il ne s'agisse que d'un simple fauteuil construit sur les gradins de pierre de l'arène. Il détestait la sensation de son corps en dehors de la cuirasse, et plus encore, son apparence. À une époque, les têtes se retournaient sur son passage. Lorsqu'il se trouvait dans une pièce, son pouvoir l'emplissait tout entière. Tout le monde le regardait, et beaucoup éprouvaient alors du désir pour son pouvoir, pour ce qu'il était. Il était en train de perdre tout ça. Oh, il était toujours puissant, peut-être même encore davantage. Mais leur expression avait changé, et toute réaction à la perte de sa jeunesse le contrariait. Il était en train de mourir, une étape à la fois. Comme tous les hommes, oui. Mais il sentait cette mort approcher. Avec un peu de chance, ce ne serait pas avant plusieurs décennies, mais son ombre portait très loin. Le seul chemin vers l'immortalité passait par la conquête. Un bruissement de tissu annonça Yalai, qui se glissa sur le siège voisin. Sa déesse tendit la main d'un geste absent pour la poser au creux de ses reins et la gratter à l'endroit qu'elle appréciait. Son nom était symétrique. Un infime soupçon de blasphème de la part de ses parents. Certaines personnes aimaient suggérer un caractère sacré chez leurs enfants. Sa déesse appréciait ces gens-là. Ce nom était, de fait, la première chose qui l'avait intriguée chez elle. Déclara sa femme avec un soupir. « Très agréable. Je vois que le duel n'a pas encore commencé. »«
Dans quelques instants, je crois. »«
Parfait. Je ne supporte pas d'attendre. J'ai entendu dire que tu avais donné le cœur de gemme que tu venais de capturer. »
« Je l'ai jeté aux pieds de Hatam et je suis parti, comme si je m'en moquais totalement. »«
Malin ? J'aurais dû envisager cette option. Tu contredis Dalinar lorsqu'il affirme que nous ne lui résistons qu'à cause de notre cupidité. »
En dessous d'eux, Adeline entra enfin sur le terrain, vêtue de sa cuirasse d'éclats bleus. Certains des pâles iris s'applaudirent poliment. De l'autre côté de l'arène, Eraniv quitta sa propre salle de préparation, vêtue de sa cuirasse astiquée qui était d'une couleur naturelle, excepté au niveau du plastron, peint d'un noir profond. Sa déesse étrécit les yeux sans cesser de gratter le dos d'Yalai.
Ce duel ne devrait même pas avoir lieu, déclara-t-il. Tout le monde était censé avoir trop peur ou le mépriser trop pour accepter ces défis.
Quels idiots, commenta Yalai tout bas. Ils savent ce qu'ils sont censés faire. Thorol, j'ai lâché les allusions et les promesses adéquates. Et cependant, chacun d'entre eux désire secrètement être le vainqueur d'Adeline. Les duellistes ne sont pas des gens particulièrement fiables. Ils sont effrontés, impétueux, et se soucient beaucoup trop de se donner en spectacle et de gagner en renommée.
Nous ne pouvons pas permettre que le plan de son père fonctionne, déclara sa déesse.
Ce ne sera pas le cas.
Sa déesse lança un coup d'œil vers l'endroit où Dalinar s'était installé. La propre place de sa déesse n'était pas très éloignée, assez près pour qu'il l'entende crier. Dalinar ne le regardait pas.
« J'ai bâti ce royaume, » ajouta sa déesse tout bas. « Je sais à quel point il est fragile, Yalai. Il ne devrait pas être difficile de le renverser entièrement. »
Ce serait le seul moyen adéquat de le reconstruire de fond en comble. Comme lorsqu'on reforgeait une arme, on faisait fondre les vestiges de l'ancienne avant de créer sa remplaçante. Le duel commença en contrebas, avec Adeline qui traversait le sable d'un pas énergique en direction d'Eraniv, lequel maniait l'ancienne lame de Gavilard, à l'aspect inquiétant. Adeline engagea le combat trop vite. Le garçon était-il à ce point impatient? Dans la foule, les pâles iris se turent, et les sombres iris se mirent à crier, désireux d'assister à un spectacle identique à celui de la dernière fois. Cependant, ce combat ne tourna pas à la même lutte brutale. Les deux combattants échangeaient des coups hésitants, et Adeline recula, après avoir été frappée à l'épaule.
« Quel manque de rigueur !» se dit Sadéas.
« J'ai enfin découvert la nature de cette perturbation dans les appartements du roi il y a 2 semaines, » commenta Yalaï.
Sadéas sourit sans quitter le duel du regard.
« Je n'en doute pas. »«
Tentative d'assassinat, » précisa-t-elle. « Quelqu'un a grossièrement saboté le balcon du roi pour essayer de le faire tomber d'une 30aine de mètres sur les rochers. D'après ce que j'ai entendu dire, ça a failli marcher. »
« Pas si grossièrement, si ça l'a presque tué. »
« Pardonne-moi, Thorol, mais presque fait une grande différence en matière d'assassinat. »
En effet, Sadéas chercha en lui-même un quelconque signe d'émotion en apprenant qu'Elokar avait failli mourir. Il n'en trouva aucun, en dehors d'un vague sentiment de pitié. Il appréciait beaucoup ce garçon, mais pour reconstruire Aletkar, il faudrait supprimer tous les vestiges de l'ancien gouvernement. Elokar allait devoir mourir, de préférence d'une manière discrète, après qu'on se serait occupé de Dalinar. Sadéas s'attendait à devoir lui-même trancher la gorge du garçon, par respect pour ce vieux Gavilard.
« À votre avis, qui a engagé les assassins ?» demanda Sadéas,
assez bas pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter d'être entendu, protégé par le bouclier que formaient ses gardes autour de leur siège.
« Difficile à dire, » répliqua Yalaï, qui se précipita sur le côté et se tourna pour qu'il lui gratte une autre partie du dos. Ça ne doit pas être Rutar ni Aladar.
Tous deux lui obéissaient au doigt et à l'œil. Aladar avec une certaine résignation, Rutar avec empressement. Royon était trop lâche, d'autres trop prudents. Qui donc aurait pu le faire?
Tanadal, devina Sadéas.
C'est l'option la plus probable, mais je verrai ce que je peux découvrir.
Ce seront peut-être les mêmes qui avaient saboté l'armure du roi, répondit Sadéas. Peut-être pourrons-nous en découvrir davantage si j'exerce mon autorité.
Sadéas était haut prince de l'information, l'un des anciens titres des siècles précédents, qui partageait les tâches entre les hauts princes. Il donnait techniquement à Sadéas toute autorité sur les enquêtes et le maintien de l'ordre.
« Peut-être, » répondit Yalaï d'un ton hésitant.
« Mais ?»
Elle secoua la tête et observa un autre échange des duellistes en contrebas. De la fulgiflamme s'échappait d'un des gantelets d'Adeline, sous les huées de quelques sombres iris. Pourquoi ces gens étaient-ils même autorisés à entrer? Certains pâles iris ne pouvaient pas être présents parce que Elokar réservait les sièges pour des inférieurs.
« Dalinar, » reprit Yalaï, a réagi à notre stratagème visant à te nommer haut prince de l'information. Il l'a utilisé comme précédent pour s'autoproclamer haut prince de la guerre. Et maintenant, chaque manœuvre, invoquant tes droits en tant que haut prince de l'information, renforce son autorité à lui dans ce conflit.
Sadéas hocha la tête.
« Dans ce cas, tu as un plan ?»«
Pas encore tout à fait, » répondit Yalaï. « Mais je suis en train d'en mettre un au point. » « As-tu remarqué la façon dont il a créé ses patrouilles à l'extérieur des camps et dans le marché extérieur? Est-ce que ça ne devrait pas relever de tes fonctions ?»«
Non, c'est le devoir d'un haut prince du commerce que le roi n'a pas nommé. Cependant, je devrais bel et bien avoir l'autorité sur le maintien de l'ordre dans l'ensemble des 10 camps et la nomination des juges et des magistrats. Il aurait dû m'impliquer dès l'instant où l'on a attenté à la vie du roi. » Mais il ne l'a pas fait.
Sadéas y réfléchit un moment et retira sa main du dos d'Yalaï, la laissant se redresser.
« Il y a ici une faiblesse que nous pouvons exploiter, » ajouta Sadéas. « Dalinar a toujours eu du mal à renoncer à l'autorité. Il ne se fie jamais réellement aux gens pour faire leur travail. Il n'est pas venu me trouver lorsqu'il l'aurait dû, ce qui affaiblit son discours selon lequel toutes les parties du royaume devraient collaborer. C'est une fissure dans son armure. Peux-tu y planter une dague ?
Yalaï hocha la tête. Elle utiliserait ses informateurs pour faire naître des questions à la cour. Si Dalinar tentait de construire un Alethkar meilleur, pourquoi répugnait-il à céder la moindre parcelle de pouvoir ? Pourquoi n'avait-il pas impliqué Sadeas dans la protection du roi ? Pourquoi avait-il refusé d'ouvrir ses portes au juge de Sadeas ? Quelle autorité le trône possédait-il en réalité s'il distribuait des titres comme celui qu'il avait accordé à Sadeas pour se comporter ensuite comme s'il n'avait jamais existé ?
« Tu devrais renoncer à ton titre de haut prince de l'information en signe de protestation, » déclara Yalaï.
« Non, pas encore. Attendons que les rumeurs aient nui à ce vieux Dalinar, jusqu'à ce qu'il décide qu'il doit me laisser faire mon travail. Ensuite, lorsqu'il tentera de m'impliquer, je renoncerai. »
Voilà qui élargirait les failles existantes à la fois chez Dalinar et dans le royaume lui-même. Le duel d'Adoline se poursuivait en bas. Il ne donnait pas vraiment l'impression d'y mettre tout son cœur. Il restait constamment à découvert et encaissait les coups. Était-ce là le jeune homme qui s'était si souvent vanté de son adresse ? Il était doué, bien entendu, mais pas tant que ça. Pas autant que Sadeas l'avait vu quand le garçon s'était trouvé sur le champ de bataille à combattre le... Il faisait semblant. Sadeas se surprit à sourire.
« Alors ça, c'est presque intelligent. »
commenta-t-il tout bas.
« Quoi donc ?»
demanda Yalaï.
« Adoline se bat en dessous de ses capacités, »
expliqua-t-il tandis que le jeune homme portait un coup de justesse sur le casque d'Eraniv.
« Il hésite à montrer sa véritable adresse car il craint que les autres renoncent à l'affronter en duel. S'il semble à peine assez doué pour remporter ce combat, d'autres décideront peut-être de sauter sur l'occasion. »
Yalaï étrécit les yeux tout en observant l'assaut.
Tu en es sûr? Ne pourrait-il pas simplement s'agir d'un mauvais jour?
J'en suis certain, répondit Sadeas.
À présent qu'il savait que chercher, il le lisait facilement dans les mouvements spécifiques d'Adoline, dans la façon dont il tourmentait Eraniv pour le pousser à l'attaque, puis parait à peine les coups. Adoline Colline était plus intelligent que Sadeas n'avait voulu le croire. Et meilleur pour se battre en duel, par ailleurs. Il fallait de l'adresse pour remporter un combat, mais il fallait une véritable maîtrise pour gagner en donnant tout du long l'impression d'être dépassé. La foule se laissait absorber par la progression du duel, et Adoline faisait en sorte qu'il soit serré. Sadeas doutait que beaucoup d'autres soient conscients de ce qu'il faisait. Lorsqu'Adoline, qui bougeait avec des gestes léthargiques, et perdait de la flamme par une douzaine d'entailles, toutes subies de son plein gré sur des parties de la cuirasse soigneusement choisies, afin qu'aucune ne se brise en l'exposant à un réel danger. Réussit à vaincre Eraniv grâce à un coup de chance vers la fin, la foule poussa de grands cris appréciateurs. Même les pâles iris semblaient se prendre au jeu. Eraniv s'éloigna en trombe en criant qu'Adoline avait eu de la chance, mais Sadeas se surprit à être impressionné.
Ce garçon a peut-être un avenir, songea-t-il, plus que son père en tout cas.
Encore un éclair remporté, déclara Yalaï, mécontente, tandis qu'Adoline levait la main et quittait le terrain. Je vais redoubler d'efforts pour m'assurer que ça ne se reproduise pas.
Sadeas tapota du doigt le côté de son siège.
Que disais-tu sur les duellistes? Qu'ils étaient effrontés? Impétueux?
Oui. Et alors ?
Adoline et les deux et bien plus encore, répondit Sadeas à mi-voix, songeur. On peut le titiller, le bousculer, le mettre en colère. Il est aussi passionné que son père, mais il se contrôle moins bien. Serait-il possible de l'acculer jusqu'au bord du précipice ? Se demanda Sadeas, puis de l'y pousser. Arrête de décourager les gens de l'affronter, dit Sadeas. Mais ne les encourage pas non plus à le combattre. Contente-toi de reculer. Je veux voir comment cette situation évolue.
Voilà qui me semble dangereux, répliqua Yalaï. Ce garçon est une arme, Thorol.
C'est exact, acquiesça Sadeas en se levant. Mais on se fait rarement blesser par une arme qu'on manie soi-même.
Il aida son épouse à se lever.
Je veux aussi que tu informes la femme de Rutard qu'il peut m'accompagner la prochaine fois que je déciderai de partir seul leur remporter un cœur de gemme. Rutard est impatient. Il pourra nous être utile.
Elle hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Sadeas la suivit, mais jeta un coup d'œil hésitant vers Dalinar. Comment se dérouleraient les choses si cet homme n'était pas prisonnier du passé? S'il acceptait de voir le monde réel, au lieu de l'imaginer?
Tu finirais sans doute par le tuer quand même, s'avoua Sadeas. N'essaie pas de prétendre le contraire.
Mieux valait, au minimum, être honnête avec soi-même.